Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue et merci d'être à notre écoute. Laissons-nous émerveiller par les dons de Dieu et saisissons chaque occasion pour faire les biens comme Jésus l'a fait avec l'aveugle né. L'exhortation du pape François dimanche avant la prière mariale de l'Angelus. À l'issue de l'Angelus, le Saint-Père a évoqué le séisme qui a frappé l'Équateur en disant sa proximité pour ce drame qui a endeuillé de nombreuses familles. François a par ailleurs évoqué la fête des Pères célébrée dimanche, invitant à prier pour tous les papas et les confiant à l'intercession de Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie. Vous aurez les détails dans l'actualité de l'Église avant la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique. Manifestation de l'opposition reportée en Guinée, manifestation de l'opposition interdite au Kenya, la reprise des combats dans l'est de la RD Congo feront l'objet de l'actualité sociopolitique en Afrique. Encore une fois, bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Stanislas Kambashi.
Durant la prière de l'Angelus des dimanches, quatrième dimanche des carême, dimanche de l'étaré, le pape François a invité les fidèles réunis place Saint-Pierre à être comme l'aveugle qui retrouve la vue grâce à Jésus et à témoigner du Christ. Ne restons pas les cœurs fermés devant les signes envoyés par Jésus. Les précisions de Xavier Sartre.
Le miracle accompli par Jésus qui redonne la vue à l'aveugle nous montre comment procède le Christ et comment procède le cœur humain qui peut être bon, tiède, timoré ou courageux. Chaque acteur de cet épisode de l'évangile de Jean exprime un sentiment que nous pourrions éprouver nous-mêmes dans une situation semblable. Tous ont cependant un point commun, ils ont un cœur fermé. Parce qu'ils cherchent un coupable, ou qu'ils ne savent pas s'étonner, ou changer, ou parce qu'ils sont bloqués par la peur, déclare le pape. Il n'y a que l'aveugle qui est heureux finalement de voir et qui le dit simplement. Libre de corps et d'esprit, il témoigne de Jésus. Il n'invente rien et ne cache rien, explique le pape. Ayant connu le goût amer de la marginalisation, l'indifférence, le mépris de ceux qui le considéraient comme un rebut de la société, maintenant guéri, il ne craint plus ses comportements méprisants parce que Jésus lui a donné toute sa dignité. François demande alors aux fidèles « Quelle position prendrions-nous aujourd'hui ? Celle de l'aveugle, celle des sceptiques et des négatifs ? Comment accueillons-nous les difficultés et les souffrances des autres ?» Le pape invite donc à demander la grâce de s'émerveiller chaque jour des dons de Dieu et de voir les différentes circonstances de la vie, même les plus difficiles à accepter, comme des occasions de faire le bien, comme Jésus l'a fait avec l'aveugle.
Et après la prière de l'Angelus, dimanche, le pape a lancé plusieurs appels. À l'occasion de la fête des Pères, le 19 mars, il a invité à prier pour tous les papas, les confiant à l'intercession de Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, afin qu'ils trouvent en lui le modèle, les soutiens, le réconfort pour bien vivre leur paternité. La célébration de la solennité liturgique de Saint-Joseph, époux de la Vierge Marie, a été déplacée au lundi 20 mars. Le Saint-Père a aussi rappelé la valeur des solidarités véhiculées à travers les marathons de Rome qui a eu lieu dimanche sur initiative de l'Atletica Vaticana. Avant d'inviter à prier pour l'Ukraine, le pape François a évoqué dans ses salutations les séismes qui a frappé l'Équateur. Il a exprimé sa proximité au peuple équatorien et assuré de ses prières les défunts et toutes les personnes qui souffrent. Un séisme a eu lieu samedi au sud de l'Équateur, touchant également les Pérou. La secousse qui a atteint une magnitude de 6,8 sur l'échelle de Richter, selon l'Institut sismologique américain, a fait une dizaine de morts, de nombreux blessés et causé plusieurs dégâts matériels. Suivons à présent la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique avec Françoise Niamia.
Le pape a célébré le lundi 13 mars son 10e anniversaire de pontificat. En Afrique, l'événement a été marqué par des célébrations eucharistiques en action de grâce à Dieu. Ce fut le cas en Côte d'Ivoire, où la paroisse Saint-Jacques des Deux-Plateaux, dans l'archidiocèse d'Abidjan, a accueilli la messe d'action de grâce organisée par la Commission nationale Justice, Paix et Environnement. Président cette Eucharistie, le père Arthur Kola, chargé d'affaires ad intérim à l'annonciature apostolique en Côte d'Ivoire, a invité les fidèles présents à construire un monde beaucoup plus fraternel. Marcel Ariston Blé revient sur cette homélie.
Revisitant le ministère pétrinien de François, surtout son option préférentielle pour les périphéries, le chargé d'affaires ad intérim de l'Annonciature apostolique du Côte d'Ivoire a exhorté chaque fidèle à poursuivre à l'exemple des apôtres la mission confiée par le Christ.
Humanité, humilité et simplicité sont notamment les traits qui caractérisent les 10 ans de pontificat du pape François dans son rapport avec l'Afrique, continent qu'il a visité à 5 reprises. C'est ce qu'a souligné le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa en République démocratique du Congo et président du CHEAM, le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar.
Les 10 ans du pontificat de François sont marqués du point de vue africain par son humanité, franchement. La proximité, l'humilité, la simplicité de ce pontificat qui tranche avec les autres pontificats avant. En 10 ans, le pape a visité le continent africain 5 fois, visitant pratiquement 10 pays. Et nous pensons que le Seigneur lui donnera la santé, la vigueur physique pour continuer à revenir dans notre continent qui souffre pour nous visiter.
Dans le cadre de leur visite ad limina apostolorum à Rome, les évêques burundais ont été reçus vendredi en audience par le pape. Plusieurs sujets concernant la vie de l'Église au Burundi et celle du pays ont été abordés au cours de leurs échanges. Le président de la conférence épiscopale burundaise, Mgr Bonaventure Naïmana, est revenu sur leurs échanges au thème de cette audience.
Avec le Saint-Père, nous avons abordé, je dirais, 3 thèmes importants. Le premier thème est celui du jubilé que vit notre Église du Burundi en cette année. Le deuxième thème, c'est le thème de la réconciliation, puisque notre pays a traversé des moments difficiles, des moments de crise, de conflit, et les diocèses ont eu le temps d'examiner cette situation à travers des synodes diocésains qu'ils ont organisés. Et maintenant, nous sommes en train de mettre en pratique les actes de ces synodes. Et nous avons parlé aussi du thème de la formation des prêtres qui est aussi essentiel pour la vie de notre Église.
Direction Cameroun, où les évêques ont entamé, début mars, une série d'échanges sur les défis de l'évangélisation aujourd'hui. La conférence épiscopale provinciale de Douala a abordé la question lors de sa première session annuelle tenue du 5 au 8 mars, tandis que les évêques de la province de Yaoundé, réunis au centre pastoral Paul VI du diocèse de Bafia du 13 au 16 mars, se sont focalisés sur les défis de l'évangélisation en zone rurale. Retrouvons Paul Valéry Mendogo.
L'évangélisation et ses défis contextuels préoccupent les évêques du Cameroun. Ceux de la province ecclésiastique de Douala ont recommandé l'enseignement d'une catéchèse qui rejoigne les fidèles dans leur milieu de vie et leur quotidien respectif et qui induise plus à un témoignage de vie qu'à une connaissance livresque. Les évêques de la province ecclésiastique de Yaoundé, de leur côté, se penchent sur les cas des fidèles résidant en zone rurale. En effet, ces zones ne sont plus ces lieux tranquilles faits de partage fraternel et d'évangélisation de la culture. Les zones rurales deviennent des espaces multiculturels qui induisent à des phénomènes nouveaux tels que la modification de l'éthos culturel des communautés rurales, les conflits fonciers, économiques et culturels et la perte des valeurs culturelles qui bouleversent les vies des villages.
Passons à l'actualité sociale et politique en Afrique. L'opposition en Guinée a annoncé dimanche avoir reporté une manifestation prévue lundi à Conakry contre le pouvoir pour un apaisement dans le pays et l'ouverture d'un dialogue crédible avec le pouvoir. Les Forces vives de Guinée, une coalition des principaux partis, des syndicats et d'organisations non gouvernementales, avait appelé à une marche pacifique lundi. Elle réclame un retour rapide des civils au pouvoir et la libération de tous les prisonniers qu'elle considère comme politiques. Une autre manifestation, cette fois-ci au Kenya. La manifestation de l'opposition kenyane contre l'inflation prévue lundi est interdite pour ne pas avoir respecté les délais légaux des dépôts, a annoncé dimanche le chef de la police de Nairobi, alors que l'opposition maintient la mobilisation. Raila Odinga, leader du parti Azimio La Umoja, continue d'affirmer que l'élection présidentielle très serrée du 9 août 2022 lui avait été volée et que le gouvernement de William Ruto est illégitime. M. Odinga a appelé à une manifestation lundi contre notamment l'inflation qui s'est élevée en février sur un an à 9,2% dans ce pays de l'Afrique de l'Est. Une vingtaine de civils ont été tués samedi dans deux attaques distinctes dans l'est de la République démocratique du Congo, où des combats ont repris entre l'armée et les rebelles du M23, selon des sources locales dimanche. Dans la province de l'Ituri, la milice Codeco, coopérative pour le développement du Congo, est accusée d'avoir attaqué samedi matin cinq villages du territoire des Mahagi. Dans la province voisine du Nord Kivu, ce sont les rebelles ADF, forces démocratiques alliées, qui sont accusés d'avoir tué au moins 9 personnes dans les villages d'Engouli, en territoire des Loubéros. Poursuivons notre programme avec le père jésuite Martin Bahati qui nous présente les documents de travail pour l'étape continentale du synode sur la synodalité publié par le secrétariat général du synode en octobre 2022.
Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous commençons la lecture du document de travail pour l'étape continentale du synode sur la synodalité. Document publié par la secrétaire générale du synode en octobre 2022. Mis à part l'introduction, le document comprend quatre points à longueur différentes. Le premier point, l'expérience du processus synodal qui comprend deux petits points. Le premier, les fruits, les semences et les mauvaises herbes de la synodalité. Deuxième petit point, la dignité baptismale commune. Deuxième point du document, écouter les Écritures. Troisième point du document, vers une église synodale missionnaire. Ce point comprend cinq petits points. Le premier, une écoute qui se fait accueillante. Deux, sœurs et frères pour la mission. Trois, communion, participation et co-responsabilité. 4. La synodalité prend forme. 5. Vie synodale et liturgie. Quatrième point du document, prochaines étapes. Ce point comprend deux petits points. 1. Un chemin de conversion et de réforme. 2. Méthodologie de l'étape continentale. Dans l'introduction, la secrétaire générale montre comment les synodes avancent un an après son ouverture. Tout au long de cette première partie de la phase consultative, assure la secrétaire, des milliers de personnes à travers le monde ont été impliquées dans les activités du synode. Certaines en participant aux rencontres au niveau local, d'autres en collaborant à l'animation et à la coordination des activités à différents niveaux, d'autres encore en offrant le soutien de leurs prières. Selon la secrétaire générale du synode, toutes ces personnes qui se sont engagées sont les véritables protagonistes du synode. Elles se sont mises en mouvement, souligne-t-elle, animées par le désir de contribuer à trouver la réponse à la question fondamentale qui guide tout le processus. Cette question est ainsi formulée, comment se réalise aujourd'hui, à différents niveaux, du niveau local au niveau universel, ce marché ensemble qui permet à l'Église d'annoncer l'Évangile conformément à la mission qui lui a été confiée. Et quel pas de plus l'Esprit nous invite-t-il à poser pour grandir comme Église synodale? Par ailleurs, la secrétaire souligne le fait que ces personnes ont éprouvé, chemin faisant, la joie de se concentrer en tant que frères et sœurs dans le Christ, de partager ce que l'écoute de la parole a fait résonner en elles et de s'interroger sur l'avenir de l'Église à partir des impulsions du document préparatoire. Cela a nourri en eux le désir d'une Église de plus en plus synodale. La synodalité a cessé d'être pour eux un concept abstrait et a pris le visage d'une expérience concrète. Elles en ont goûté la valeur et la saveur et veulent continuer à le faire.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du service Français-Afrique des Radios Vatican, Stanislas Kambashi qui vous l'a présenté vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.